fiscalité et par l'accroissement des pouvoirs que le roi de fer en unissant le royaume avait accaparé. C'était surtout, au reste, au sein de sa propre famille capétienne que Philippe voyait se lever les plus grandes rancœurs et protestations. Tous étaient aux aguets, prêts à tirer profit de la moindre situation susceptible de le déstabiliser. Et le plus dangereux d'entre ceux-là était sans doute son propre frère, Charles de Valois, ennemi juré de Marigny et prompt à mener la révolte des barons. Peut-être devrions-nous laisser le successeur de Nogaret reprendre l'enquête, suggéra Marigny. Qui votre majesté a-t-elle prévu de nommer à la chancellerie pour le remplacer? L'habileté de la question n'échappa point au roi, qui ouvrit un léger sourire. Je me demandais combien de temps vous pourriez tenir avant de me poser la question. J'ai choisi Pierre de Latilly, mon cher Enguerrand. Il succédera bien à Nogaret, mais c'est un fiscaliste, et il ne sera pas capable pour notre affaire. En effet, répliqua Marigny, qui, en réalité, avait déjà une idée en tête. Il faudrait à votre majesté quelqu'un qui ait l'habitude de traquer les gens. Un obstiné, un vautour, un prédateur. Le roi, qui commençait à comprendre où son conseiller voulait en venir, fronça les sourcils. Suggérez-vous, Chambellan, que nous demandions à Guillaume Humbert? L'inquisiteur n'a-t-il pas été redoutable avec les Templiers, avec les Juifs, ou avec cette diablesse de Marguerite Porrette? Certes, certes. Mais justement, l'affaire ne lui paraîtra sans doute pas digne d'intérêt. Guillaume a longtemps été confesseur de votre majesté, il est de notre côté. De plus, il était très proche de Nogaret, avec lequel il a conduit le procès des Templiers. Enfin, il est à présent coadjuteur à Sens de Monseigneur de Marigny, mon demi-frère, lequel saura sans doute le convaincre. Le roi inclina la tête en signe de consentement. Soit. Je m'en vais de ce pas transmettre la volonté de votre majesté à Guillaume Humbert, conclut Marigny, mais en réalité, c'était bien de sa volonté propre dont il était question. Chapitre 60. Quand tu marches ainsi dans la nature, Robin, il n'est pas une plante sur laquelle ton regard puisse se poser que tu ne doives lier à la pharmacopée, car tout ou presque te serviront un jour dans ta carrière d'apothicaire. Le soir commençait à tomber, et au loin se profilait la belle ville fortifiée des Tempes, où Andreas avait prévu qu'il dormirait, puisque c'était une étape importante du pèlerinage de Compostelle, et qu'il y avait là de nombreuses auberges pour accueillir les marcheurs.
« Je sais, maître, et je puis vous assurer que je le fais. »«
Comme il est mignon, ton arpette !» s'extasia la ponante. « Ainsi, poursuivit Andreas, tu dois distinguer les herbes vulnéraires comme l'aigre-moine, le pied de lion ou la pervenche. Les cinq racines apéritives qui sont celles de petit houx, d'asperges, de fenouil, de persil et d'ail, les cinq capillaires qui sont l'adiantum noir, l'adiantum blanc, le polytrique, la scolopendre et la ruta muraria, les fleurs cordiales comme la bourrache ou la violette, les carminatives comme la camomille ou la nette, les herbes émollientes comme la guimauve, le violier, la mercuriale ou le lys, les semences froides comme celles de courge, de citrouille ou de melon, les semences chaudes comme celle d'anis ou de cumin. Et Andreas continua ainsi pendant bien plus de temps que la patience du lecteur ne saurait sans doute le souffrir. Plus de temps d'ailleurs que celle de Magdala l'eût voulu. Mais celle de Robin était grande, et il écouta pieusement son maître jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés au-delà des bouquets de verdure, devant les remparts de la ville des Tempes, du côté de la porte Saint-Jacques. La veille au soir, l'apothicaire avait emprunté aux bénédictins des Tréchis plumes et parchemins pour fabriquer dans le secret de leur chambre des lettres de recommandation pour le pèlerinage de Compostelle bien mieux falsifiées que celles qu'ils avaient trouvées dans la besace des coquillards. Pour ce faire, il avait lui-même teinté l'encre de différentes manières, en y ajoutant un peu de suie ou de vinaigre, et imité plusieurs écritures avec une habileté qui avait ébloui Robin, quoique celui-ci fût quelque peu gêné par le procédé. Ainsi, on les laissa entrer tous les trois dans la ville fortifiée sans leur poser la moindre question. Ils gardèrent néanmoins leur chapeau bien enfoncé sur la tête, de telle sorte que leur visage dans l'ombre ne se voyait point trop. Une fois passé l'enceinte, en plus de la commanderie d'hospitaliers de Saint-Jacques-de-l'Épée, où se rendaient la plupart des marcheurs, les